L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, en rediffusion à 18h. Une émission qui reçoit une fois par mois le réseau paysan et rural CIVAM du Finistère, ses adhérentes et adhérents qui viennent nous parler de leur quotidien agricole. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons toucher l'actualité. La 12e journée de mobilisation contre les retraites, c'est aujourd'hui, ce jeudi. Une réforme passée grâce à l'article 49.3 de la Constitution, donc sans vote des députés. Une réforme qui prévoit un âge légal de départ à la retraite de 64 ans. Et le réseau paysan CIVAM du Finistère participe à une action de soutien au comité de grève de l'intersyndicale, ce qui montre bien, s'il en était besoin, que c'est un réseau engagé, militant. Il est représenté aujourd'hui par Alain Jacob, l'un des administrateurs, qui est aussi éleveur, paysan fromager dans les Monts d'Arrée. Non, pas du tout. Pas du tout. Bonjour Alain.
Bonjour.
Pas administrateur.
Je suis plus administrateur et je suis retraité.
Ah ben voilà. Et justement, on est en plein dans le sujet. Par quelles circonstances le CIVAM s'est trouvé à participer à une action de soutien
Le CIVAM, mais aussi la Conf du Finistère, les amis de la Conf, Terroir en Fête, qui est une association de développement de la Confédération Paysanne. On s'est retrouvés souvent dans les manifestations et on s'est dit qu'il fallait aussi quelque part participer. On a rencontré l'intersyndicale des ouvriers, des salariés, de tous les syndicats de salariés, et on leur a proposé de faire du lien avec le monde ouvrier, quoi. Chose qui a quelque part toujours existé et qui est en train de disparaître doucement, ce lien qu'il y a eu entre le monde ouvrier et le monde paysan. Quelque part, les ouvriers et les paysans, ils descendent du même arbre économique. Quelque part, on a été si on reprend un peu l'histoire, en 1789, c'est la révolution, la prise du pouvoir par la bourgeoisie, et quelque part, ça va être le début de la transformation un peu de notre économie. On est dans une économie basée sur le monde agricole. C'est 100%, pour ainsi dire, de la richesse du pays. Ce sont les physiocrates un peu qui portent cette forme d'économie. Et donc, 1789, les bourgeois, et derrière, arrivent, entre-temps, il y a eu aussi la découverte des Amériques, et là, donc, l'enrichissement de la bourgeoisie, et au bout d'un moment, on va se dire, mais la terre, alors on peut faire du profit avec la terre. Seulement, il y a plein de choses qui dérangent. La terre peut devenir une marchandise, peut devenir une source de profit, mais il y a un peu trop de bras, un peu trop de monde sur cette terre agricole. Et d'abord en Angleterre, aux USA, on va voir rapidement la population agricole qui va disparaître. Et ça va prendre plus de temps en France, mais
En Grande-Bretagne, enfin outre-Manche et outre-Atlantique, c'était quoi? C'était dès le 19e siècle, il y a eu une forte chute.
Dès 1850, il y avait des lois qui protégeaient l'agriculture. Les libéraux qui sont issus, enfin donc du 18e siècle, ils vont commencer à dire ça va pas. Ils vont commencer à grignoter les lois. C'est une loi en Angleterre qui s'appelait les Corn Laws. Mon anglais est très et donc qui protégeait un peu, qui était une loi protectionniste. Et dans le libéralisme, déjà, il faut ouvrir parce que l'Angleterre va commencer à avoir des manufactures, le coton qui vient d'Amérique. Le développement de toutes ces usines-là, il faut des bras. Donc, il y a aussi en même temps la révolution un peu du monde agricole, parce qu'on va au niveau de la chimie, on va...
On modernise l'agriculture.
On modernise.
En fait.
Il y a la mécanisation qui va arriver, la science agronomique qui évolue, la chimie avec le Liebig, les fameux bouillons cubes. C'est celui qui va synthétiser l'azote et qui va fabriquer des engrais azotés.
Ah ouais.
Et
c'est le même qui a fait les bouillons cubes, qui a fait les engrais.
Oui.
D'accord.
C'est pas la même chose qu'il y a dans le bouillon cube, hein, ça rassure tout le monde. Et c'est ça qui va donner d'ailleurs, c'est le début de la misère pour certains agriculteurs qui vont disparaître. Et puis pour ceux qui ont déjà vu ce reportage fantastique sur Arte qui s'appelle le Dust Bowl, où c'est dans une petite région des États-Unis, enfin qui est grand pour la France, où il va y avoir 10 ans de tempête de sable après avoir travaillé les terres et puis mis de l'engrais, donc plus de carbone dans les sols, un sol qui s'appauvrit, bon, bah, etc. Donc encore des paysans qui disparaissent.
Donc l'agriculture se transfère,
la chimie qui prend la place.
Donc de fait, il y a moins besoin de bras pour cultiver le même volume ou même davantage, c'est ça.
Et donc on se retrouve avec en France, pour revenir à la France, on va garder quand même une population paysanne. Je crois qu'en... pas certain de mes... Je vais pas dire de bêtises, mais il y avait encore 10 travailleurs agricoles après la guerre 39-45. Il y avait encore 10 travailleurs agricoles pour nourrir 55 personnes. Déjà en 75, 10 travailleurs, c'était 260 personnes nourries. Et aujourd'hui, d'abord, il ne reste plus que 390 000 paysans, autour de 3,5% de la population active. Aujourd'hui, quelque part, le lien un peu s'est rompu entre le monde agricole et le monde ouvrier. Gamin, on avait tous de la famille agricole. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens à avoir de la famille agricole. Et pendant toutes ces années d'évolution ou de révolution agricole à partir des années 60, il y avait encore un lien fort, ce qui faisait qu'il y a beaucoup de grèves qui étaient soutenues par les paysans, parce que les ouvriers avaient encore du lien avec le monde agricole. Et on prend la grève du joint français, les grèves des abattoirs de Pédernec. À Brest, il y avait une grande cantine à partir de 1908 où l'alimentation venait des campagnes et nourrissait jusqu'à 4000 personnes par jour. Il y a eu plein de choses qui se sont faites en lien entre le monde agricole et le monde ouvrier.
Qui lui-même était important. Parce que c'est vrai que maintenant, ce mouvement contre la réforme des retraites, finalement, il est plutôt composé d'employés, on va dire, du tertiaire. Enfin, c'est pas tellement... Les ouvriers, il y en a, mais enfin, c'est pareil.
Le monde ouvrier, justement, aujourd'hui, il a un peu, depuis on va dire, l'OMC et tout ça...
L'Organisation mondiale du commerce.
Le néolibéralisme, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ouvriers en France, on va chercher à l'autre bout du monde. Donc, il y a moins d'ouvriers, on est plus dans le tertiaire, comme vous dites. Bon, maintenant, nous, on veut continuer à avoir ce lien avec le monde ouvrier. Donc demain, au concert qui sera donné à la place de la Liberté à Brest, on aura une espèce de cantine paysanne où un des personnes qui est venu sur ce plateau,
Michel Caron-Guévin,
a commencé à transformer le cochon dans son labo.
Ça y est.
Y a toute une équipe qui sera prête demain pour servir du cochon grillé. Un plat comme fait Terroir en Fête depuis des années. Les gens qui connaissent Terroir en Fête, on connaît un peu le repas de Terroir en Fête. Voilà, c'est un repas paysan avec du cochon, des pommes de terre.
Il y a combien de personnes qui vont être nourries
C'est un peu une première pour nous, donc on ne va pas nourrir les 2 à 3 000 personnes qui s'ont entendues,
on va faire
200 à 250 repas.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont nourrir, qui vont participer à la restauration, peut-être pas seulement le CIVAM et les paysans du CIVAM.
Autour de la place, il y aura tous les syndicats sont là, auront des stands aussi. Et puis, l'important pour nous, c'est de faire ce lien, et puis après, c'est de continuer aussi à pouvoir discuter avec les syndicats de salariés, d'ouvriers, parce qu'il y a toujours des ouvriers, et de pouvoir continuer à travailler avec eux, parce que les changements se feront tous ensemble, pas simplement... c'est un peu le problème de l'agriculture, de s'être enfermé dans sa tour d'ivoire.
Mais est-ce qu'elle l'a vraiment souhaité, à dire vrai?
Peut-être pas les agriculteurs, mais l'agroalimentaire, d'ailleurs... tout le monde peut aller lire, je crois qu'il est sorti aujourd'hui ou hier, un livre du journaliste Nicolas Legendre qui s'appelle « Silence dans les champs ».
Sur le système agro-industriel breton, c'est ça?
Voilà.
Pour résumer.
Ouais, c'est ça.
À grands traits. Ouais.
Voilà, donc on va... ce que je voulais dire aussi un peu, c'est ce lien ouvrier-paysan qui a été très fort dans les années 70 et qui a vu la naissance aussi d'un groupe qu'on appelait les paysans travailleurs avec Bernard Lambert, qui a été un penseur de l'agriculture et qui est un peu à la base ses camarades de la Confédération paysanne.
Donc lui, il était agriculteur ?
Il était agriculteur et c'était un personnage. Les gens peuvent aller chercher en tapant Bernard Lambert, on voit quelques vidéos de l'INA. C'est Bernard Lambert qui disait « Les paysans ne seront plus jamais des Versaillais ». C'est aujourd'hui, c'est la fête du mariage de l'Ippe et du Larzac. Il avait dit ça lors de la marche sur le Larzac dans les années 70. Je voulais dire que les paysans n'iront plus s'opposer comme avaient fait les paysans qui avaient été se battre contre les communards avec l'armée pour détruire la commune. Quoi.
Oui, c'est ça, parce que du temps de la commune, les paysans étaient plutôt du côté conservateur, on va dire. C'est ça, enfin, ils étaient passés...
C'est sûr que les paysans, ce sont des petits patrons.
Mais
d'abord, c'est d'abord des travailleurs.
Et oui. Après, les paysans, on le sait très bien, c'est un monde qui est très hétérogène, finalement, entre les gens du CIVAM et puis des gens, les patrons de très grosses exploitations. C'est qui ne sont plus des paysans, justement, même si parfois ils se réclament du terme.
En 100 ans, on est passé d'une population paysanne qui était dans l'autosuffisance et qui s'était un peu débarrassé de l'aristocratie, et puis par après les lois de 45 de Tanguy Prigent.
Encore un breton,
ouais. Et on retombe, là, on est en train de créer des baronnies agricoles, où quelque part on a une force agricole d'une puissance considérable, qui demain nous fera manger ce qu'elle produira à condition qu'elle fasse du profit. Quoi.
Oui.
C'est quelque part, tous ensemble, paysans, ouvriers, on doit se préparer à ce monde demain qui va nous nourrir de façon encore plus catastrophique qu'elle ne le fait aujourd'hui.
Oui, c'est ça, ouvriers et salariés, enfin j'ai envie de dire salariés modestes, employés de base, il faut aussi recréer le lien avec eux, parce qu'en fait c'est un peu le problème de l'agriculture française aujourd'hui, c'est que les gens oubliaient que c'était du travail qui représentait une valeur, et donc on a tendance à vouloir acheter moins cher, toujours moins cher. Donc on dessine une certaine agriculture qui n'est pas celle que défend le CIVAM. Enfin, il y a ça aussi.
Si on veut revenir sur l'alimentation, les gens n'achètent pas toujours moins cher. Ils sont des fois poussés à acheter moins cher par rapport à leur revenu. Parce que avec l'inflation qu'on a vue, je crois qu'il est passé autour de 15 ou 16% sur l'alimentaire. Quand on a investi pour acheter une maison, une voiture, que sais-je, des fois on est un peu bloqué, et puis simplement si on a un petit salaire. Hein. Là aujourd'hui avec le CIVAM, on fait des enquêtes, on va dire entre guillemets sociologiques, parce qu'on n'est pas des sociologues, mais on rencontre des personnes sur la ville de Brest, et on essaye de causer avec eux. Quel est leur problème par rapport au prix, pourquoi ils achètent ceci, pourquoi ils achètent cela. Je vais juste donner un exemple, je ne sais pas s'il n'a pas déjà été donné sur ce micro par une autre personne.
C'est pas grave, on va le redonner.
C'est une personne qui achetait une part de Brie, une femme seule, qui avait 870 euros de retraite, et qui achetait une part de Brie à 75 centimes. Et la part de Brie était passée à 1,02 €, elle avait arrêté de prendre sa part de Brie. Bon. C'est vrai qu'il y avait 30 centimes de, donc 30% d'inflation sur le morceau. Et comme elle était tellement juste, et en plus.
Elle en était là, quoi. Ouais.
Et en plus,
ouais.
Un fromage, à mon avis.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Beaucoup de protéines dedans, beaucoup de crème.
Du brie au fin fond du Finistère.
Les vaches devaient pas avoir souvent de l'herbe.
Ouais, c'est ça. Et alors qu'il y a moyen, en plus, on le sait, franchement, sur cette antenne, il y a moyen d'avoir accès, en tout cas, quand. Peut-être pas à Brest, alors c'est ça le problème aussi, ça dépend des territoires, mais nous ici, entre la presqu'île de Crozon et les Monts d'Arrée, on peut avoir accès à de la nourriture de bonne qualité à des prix tout à fait abordables, mais encore faut-il savoir où s'approvisionner, il y a ça aussi. Dans l'enquête qui a été menée sur le territoire de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime autour du projet alimentaire de territoire, pour les répondants, il y avait un problème d'information aussi, apparemment.
Ouais. Alors nous, l'année prochaine, on a une association c'est dans les Monts d'Arrée, hein, à Sarriwal, qui s'appelle Brand d'Arrée, qui organise depuis 30 ans des marchés où justement on essaye de parler de tout ça. Là, on vient de parler de la méthanisation.
C'était le marché sur l'eau
l'année dernière.
Ouais.
Et cet été, les gens qui veulent passer je crois que c'est le deuxième week-end d'août. On fait un marché sur le site de la Maison Cornac à Sarriwal, et là on parlera justement un peu de la toute-puissance du monde agroalimentaire par rapport aux paysans et aux citoyens.
Les citoyens, est-ce que c'est important aussi qu'ils retrouvent...
Consommateurs.
Ouais, c'est ça, voilà. Parce que les consommateurs, en plus, on se rend compte, comme ils sont de plus en plus urbains, on se rend compte que leur lien avec l'agriculture c'est pareil, très ténu, voire inexistant. Comment leur redonner ce lien-là, surtout ceux qui vivent en ville, hein.
Et pourtant, ils sont toujours contents quand ils débarquent sur un marché ou sur une ferme, ou une visite de ferme, ils sont toujours... tout le monde est émerveillé. C'est dur à comprendre comment, justement, ça ne se développe pas plus. C'est vrai que c'est... Pourtant, nous, voilà, avec le CIVAM, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ouais, c'est le temps gris qui me rend pessimiste, mais c'est vrai que c'est dur à... C'est du travail de longue haleine. Et on continue, on en fera d'autres encore des journées où on fait justement de la rencontre sur le terrain, entre les paysans, les consommateurs, et on peut discuter pourquoi le producteur met ce prix-là à tel produit, qu'est-ce qu'il gagne sur son travail, cette heure de boulot, tout ça, c'est à mettre en compte. Après, c'est peut-être chacun une prise de conscience quand on peut. Parce que souvent, je comprends les gens qui n'ont pas les moyens, et là, c'est une autre politique à mettre en place. Mais pour les gens qui ont les moyens, des fois, on peut se poser la question. Il manque peut-être encore de connaissances.
Et les connaissances peuvent passer notamment par l'école. Alors, est-ce que là, la loi Egalim qui oblige à mettre davantage de nourriture de proximité, de qualité, du bio dans la restauration scolaire, est-ce que ça peut améliorer la connaissance de cet univers-là, du côté des enfants ?
moi, la loi Egalim 1, 2, c'est pas trop ma tasse de thé.
Ah oui, pourquoi oui.
Je pense que ça va surtout profiter aux grosses structures plutôt qu'aux petites structures. De la bio dans les cantines, moi je vois mes enfants sur la ferme, on prendra jamais leurs produits parce que on n'a pas un laboratoire, et on a un laboratoire qui est nickel mais il n'est pas agréé européen. Il y a plein de choses comme ça qui font que qui mettent des barrières. Et puis après il faut des quantités.
Même pour la petite école du coin.
La petite école du coin, ça peut se faire.
Oui, parce que quand même, là Saint-Rivoile.
Saint-Rivoile, ça va être quelques tranches de jambon ou un morceau de fromage, je sais pas. Mais je pense que on voit bien aujourd'hui l'agroalimentaire a compris que pour eux, on les a rencontrés d'ailleurs un jour sur une réunion à c'était pas la chambre d'agriculture, si c'était la chambre d'agriculture. Ils ont dit mais la bio c'est un marché, pourquoi on n'irait pas?
Oui,
alors que pour les gens qui se sont lancés dans la bio il y a 30 ans ou 40 ans ou plus, c'était pas un marché, c'était plutôt une façon de produire, c'était pas prendre la terre pour un endroit où on allait faire du profit.
Voilà, c'était un autre rapport à la terre.
On revient toujours à cette idée de d'argent. Il y a certains qui produisent pour nourrir leurs voisins ou leurs concitoyens et d'autres qui font de la production alimentaire pour faire du pognon.
Et exporter, etc. Ah. Ouais, on est loin du circuit court.
En même temps, tout en exploitant des producteurs et des producteurs qui sont conventionnels, hein, mais qui sont des gens qu'on rencontre à la conf ou même dans d'autres syndicats et qui sont aussi un peu, c'est Bernard Lambert qui disait, des esclaves de la production, quoi.
Oui. De même, en plus, c'est ça qui est fou, parce que ces grosses coopératives agricoles, finalement, c'était au départ les producteurs eux-mêmes qui se mettaient en coopérative pour être plus forts, et puis finalement, ils se retrouvent presque les esclaves de leurs propres outils.
C'est André Pochon qui était venu sur le marché sur l'eau il y a quelques années et qui disait que le jour où on avait été chercher des directeurs de coopératives dans les grandes écoles, les agriculteurs avaient perdu la maîtrise de leur coopérative. Voilà, peut-être qu'il faut se relancer. Même nous, producteurs fermiers, moi c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans, on doit peut-être réfléchir aussi à notre mode de distribution de nos produits. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les magasins de producteurs.
Ça marche bien d'ailleurs,
les magasins de producteurs. Ça marche un peu, mais ça ne se développe pas.
Oh, il y en a quand même beaucoup qui ont vu le jour ces dernières années.
Je connais 5 qui sont vraiment magasins de producteurs. Après, il y a beaucoup de choses où ce ne sont pas des magasins de producteurs. Ce sont des fois des magasins de production d'un producteur qui revend plein de produits d'autres producteurs. Et ça, ce ne sont pas des magasins de producteurs. Un magasin de producteurs, c'est un magasin où tous les producteurs qui sont associés ont la responsabilité du magasin. C'est pas un seul qui récupère le profit des ventes.
Mmh, c'est une vente directe de plusieurs producteurs, juste déportée, quoi, voilà. Qui est pas à la ferme. Ouais, c'est ça. Ou alors vente sur les marchés. Bon,
les
marchés.
Vente sur les marchés. Nous, voilà. On fait les deux.
Mmh. Mais les marchés, par exemple, ils ont connu une sorte de regain ces dernières années. Donc, on peut peut-être être optimiste là-dessus sur l'achat en direct, le lien entre les consommateurs et les producteurs.
Oui. Oui, oui. Après, c'est pas facile parce que souvent les marchés, c'est dur, c'est un boulot qui est dur. C'est tous les jours de la semaine. Enfin, tous les jours de la semaine, on touche pas tout le monde. Les gens sont au travail. Le samedi, c'est les gros marchés, mais il y a pas la place pour tous les producteurs. Donc, c'est pas non plus si facile que ça. Dans le sud de la France, où la production fermière était restée beaucoup plus prégnante de l'agriculture, il y a des magasins producteurs qui sont quand même plus importants et plus développés. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train aussi de déraper et puis de partir vers des grosses boutiques. Voilà, ils ont dû changer de directeur.
Sans doute. Alors, en filigrane, quand même, dans cet entretien, il y a aussi le côté dur de ce métier, puisqu'on parle des retraites. Il faudrait peut-être parler de ça aussi, la retraite agricole. Bon, déjà, le métier d'agriculteur, c'est un métier particulièrement dur, non, quand même, on peut le dire.
Passionnant.
Ah bah c'est heureusement, sinon il n'y en aurait
passionnant.
Plus.
Passionnant. on fait des heures, mais c'est passionnant, et puis c'est un métier qui est varié. Il faut pas rentrer là en se disant je vais faire 35 heures et gagner 2000 balles par mois, mais voilà, c'est autre chose, on gagne autre chose que peut-être de l'argent. Et, par contre, la retraite agricole, alors le problème de la retraite agricole, c'est un sujet qui est un peu mis sur la table, je pense à la Confédération Paysanne, au CIVAM, c'est savoir que, en fin de compte, un paysan cotise très peu pour sa retraite.
Oui, puisqu'il est chef d'exploitation.
Il cotise très très peu et arrive à la retraite, on a une petite retraite.
Par exemple, c'est quoi?
Alors moi ma retraite, j'étais salarié pendant 10 ans, j'arrive à 1000 euros, 1062 qu'on m'a dit hier soir.
Wow.
1062 euros.
Colossale bon, fortune.
Mais il faut savoir que les retraites agricoles, elles sont payées, je crois que c'est à 60 ou 75% ou 70% par l'argent public. Parce que les caisses agricoles, elles sont trop faibles. Donc il n'y a pas de sous dans les caisses de retraite agricole. Donc c'est de l'argent public qui vient abonder la caisse agricole. Donc on peut imaginer que demain, si les producteurs, les paysans cotiser comme des salariés, c'est aussi toute l'agriculture derrière qui changerait, parce que bah, si demain on doit cotiser plus tous les mois, on va peut-être être obligé de faire des choix sur nos fermes, donc peut-être je vais rêver.
Allons-y.
Pas de robotisation, pas de numérisation et plus d'argent vers les cotisations sociales, quoi. Mm. Et c'est les cotisations sociales qui sont un peu le parent pauvre de l'économie agricole, du monde agricole, comme les boîtes de compta quand elles viennent chez un paysan, ils disent bon ben investis un peu plus, comme ça tu paieras moins d'impôts, tu paieras moins de cotisations sociales.
Ah ouais. Et parce
ça a été
que
longtemps la logique.
Ah ouais. Et souvent les chefs d'exploitation, finalement ils peuvent vivre à la retraite parce qu'ils vendent leur ferme aussi, non? Enfin
il y a certains qui vendent très bien leur ferme, il y a certains qui étaient que locataires de leur ferme, donc ils vont pas la vendre, ou ils avaient peut-être qu'un bâti, ou il y en a qui font faillite avant la fin. Enfin bon, il y a beaucoup de cas de figure, et il y a des gens qui font fortune. Oui, il y a des gens qui font fortune.
C'est pas la majorité.
Et aujourd'hui, le problème, si je reviens à ce qu'on a vu lundi dernier, la méthanisation, un agriculteur qui se lance dans la méthanisation, sa ferme, c'est plus des milliers d'euros, c'est des millions d'euros.
Comment elle sera reprise de chiffre d'affaires
mais aussi de vente de la ferme. Parce qu'un méthaniseur,
ça coûte très cher.
Un méthaniseur, c'est entre 2, 4, 5, 10 millions d'euros. Donc, je prends un méthaniseur à côté de chez moi, c'est entre 4, 5 millions d'euros. Quand la ferme sera à vendre avec les centaines d'hectares qu'il y a derrière,
qui va reprendre
Total, ouais. Shell.
Oui, c'est ça. Ça risque d'être des grands groupes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture.
Voilà.
Mm-hmm. Ouais. Et des grands groupes énergétiques.
Et,
voilà.
Et aujourd'hui, pour revenir sur les retraites, il y a un travail qui est fait au niveau national à la Confédération Paysanne sur le système de SCOP en agricole, quoi.
Société coopérative.
Pour dire paysanne, presque.
Oui, alors ça existe, paraît-il, ouais. Qui s'appelle la SCAEC. Ouais, il y en a 5 ou 6 en France,
voilà.
C'est ça.
Ouais, donc c'est une...
Ça serait une solution pour les retraites, ah oui,
c'est compliqué pour, le. Je crois que s'il y a, un souci, c'est que en fin de compte, si on est en SCOP comme ça, on devient salarié, on peut plus toucher les aides agricoles comme on les touche.
C'est ça.
Donc il y a toute une politique à revoir à ce niveau-là.
Un statut à revoir, à retravailler. Et les agriculteurs sont touchés par cette réforme des retraites à 64 ans ou pas concernés?
Je pense que Macron, il s'est encore pris les pieds dans le tapis au salon de l'agriculture en disant que les agriculteurs auraient 1200 euros. Moi, je suis passé au salon, je suis passé aller au stand de la MSA, puis je leur ai parlé ça, les gens, ils ont mis la tête sur le bureau et puis ils ne parlaient pas de ça. Jamais, ouais. Personne n'avait entendu parler de ça. Donc,
En tout cas, il y a concert de soutien au comité intersyndical à Brest demain soir, donc le 14 avril à 18h devant la mairie. Et il y aura un repas qui sera préparé par le réseau CIVAM et ses comparses. Merci beaucoup.
Confédération Paysanne.
Et la Confédération Paysanne. Merci Alain Jacob. Et on retrouvera le CIVAM du Finistère le 25 mai dans l'EM.
Merci.